avec Alliance Vita au service des plus fragiles.
Chers auditeurs, je voudrais aborder aujourd'hui un sujet sensible et très délicat. Celui des personnes qui ne se sentent pas du sexe qui est le leur, mais de l'autre sexe, voire parfois d'aucun sexe. Ce phénomène explose en ce moment et touche même de jeunes enfants. Il envahit l'espace médiatique à coups de reportages, de documentaires, de tribunes et de témoignages vantant les mérites et le bien fondé de la transidentité chez les jeunes. Ce phénomène gagne les établissements scolaires, publics comme privés, avec des demandes croissantes d'enfants souhaitant que leur identité différente soit prise en compte. En réponse, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a publié au bulletin officiel une circulaire qui suscite de nombreuses interrogations. Il s'agit d'un plaidoyer d'une dizaine de pages qui dicte l'obligation de reconnaissance, d'attention particulière et d'accompagnement individualisé par les professeurs et par l'école des enfants qui s'autodésignent transgenres. Il fixe comme postulat de départ le principe d'autoproclamation du genre ressenti tel qu'il est revendiqué par les défenseurs d'une identité transgenre. Des situations d'apprentissage sur l'identité transgenre doivent être mises en place à l'école et la posture assumée de la circulaire rappelle aussi la responsabilité de l'ensemble du corps éducatif et particulièrement des enseignants. Ils ont l'obligation de reconnaître et d'appliquer l'identité de genre ressentie par l'élève. Cela se traduit par exemple par l'utilisation du prénom d'usage choisi, avec accord des parents pour les mineurs, mais aussi par l'accès aux toilettes, aux vestiaires, aux dortoirs du sexe correspondant à l'identité ressentie par l'élève. Alors voici quelques chiffres pour se rendre compte de l'évolution de ce phénomène. Aux USA tout d'abord, car regarder les USA, c'est souvent regarder la France dans 10 ou 15 ans. Depuis 2007, l'Amérique est passée de 2 cliniques du genre à plus de 50. Entre 2016 et 2017, le nombre de chirurgies du genre pratiquées sur les femmes a quadruplé. Historiquement, il n'y avait que 0,01% de la population américaine qui était atteinte de ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Mais en 2018, ce sont 2% des lycéens américains qui se disent transgenres. En France, selon le docteur Chambry, qui est pédopsychiatre et responsable d'un centre d'accueil pour adolescents à Paris, il y a près de 10 ans, on avait environ 10 demandes de changement de sexe par an chez les adolescents. En 2020, c'est 10 demandes par mois uniquement pour la région Île-de-France. Cette démultiplication de diagnostics de dysphorie de genre s'accompagne de la mise en place de pratiques médicales, bloqueurs de puberté, traitements hormonaux et de chirurgies qui inquiètent légitimement puisqu'elles consistent à intervenir sur le corps sain d'enfants ou de jeunes, les transformant en patients à vie. Alors faut-il voir dans cette accélération une libération de la parole et une plus grande sensibilité de la société ? Ou assiste-t-on à un phénomène de contagion sociale influencé par le discours de militants ? Alors que ce débat fait rage chez les psys, Caroline Eliachef et Céline Masson se sont engagées dans le second camp. Dans leur livre « La fabrique de l'enfant transgenre » aux éditions de l'Observatoire, ces psychanalystes dénoncent les dérives du transgenrisme chez les mineurs, l'embrigadement idéologique et l'influence des réseaux sociaux. Elles affirment aussi qu'une grande majorité d'adolescents se présentent dans des consultations pour une dysphorie de genre et se sont diagnostiqués eux-mêmes sur Internet. Des influenceurs trans mettent en scène les différentes étapes de leur transition, renvoient les jeunes sur des sites leur expliquant comment faire pour convaincre les médecins de leur prescrire des hormones ou pour effectuer leur coming out auprès des parents. Ils arrivent alors en consultation avec un discours stéréotypé. Ces jeunes se sentent faire partie d'une communauté, d'une nouvelle famille qui les soutient et en fait des héros. Or, dans 75 à 80% des cas, ils ont des troubles psychiques préexistants et semblent résoudre leurs problèmes en se déclarant trans. Elle distingue aussi, ainsi ces deux psychanalystes, la dysphorie de genre vraie, extrêmement rare, et ce qu'elle nomme l'utopie de genre, où l'on fait croire monts et merveilles à des jeunes en quête d'identité et mal dans leur corps. Mais ce mal-être est réel, parfois même très profond, et doit être pris au sérieux. Au cours de l'Université de la vie proposée par Alliance Vita au mois de janvier dernier, nous avons pu écouter l'expertise du docteur Christian Flavigny sur ce sujet. Il est pédopsychiatre, psychanalyste et auteur du livre « Aider les enfants transgenres » aux éditions Teki. Le docteur Flavigny rappelle que grandir ne se fait pas sans tumulte. L'enfant doit s'approprier le corps et le sexe qui lui sont donnés pour les faire siens et établir une relation avec lui-même qui est le fondement de sa liberté. Le défi est de grandir, se construire en assumant ce qui nous est donné par la vie. Mais en effet, il y a parfois un décalage entre la réalité corporelle et le ressenti d'être un garçon ou une fille. Ce décalage crée un profond désarroi qu'il faut prendre au sérieux sans pour autant le prendre au pied de la lettre. Alors comment répondre à cette souffrance? Deux types de prise en charge s'opposent. Les thérapies qui prennent leur temps, plutôt issues du modèle français défendu justement par le docteur Flavigny. Grâce à un accompagnement et une prise en charge psychologique sérieuse, elles permettent à une très grande majorité, 75 à 90% des enfants et adolescents, de se réconcilier avec leur sexe biologique à la sortie de l'adolescence. Mais il y a aussi les thérapies dites affirmatives, inspirées du modèle anglo-saxon. Elles promeuvent une immédiate transition sociale qui commence par le changement de prénom, comme la circulaire Blanquer le préconise. Dans près de 90% des cas, ces thérapies sont suivies par un traitement par bloqueur de puberté, puis hormones croisées, suivies parfois de chirurgie mutilante. Alors que se multiplient des témoignages de jeunes adultes venant des pays anglo-saxons, effrayés par ce qu'ils ont fait de leur corps et qui entament douloureusement leur détransition, la France semble s'engouffrer désormais dans ces thérapies qui ont montré leurs limites à l'étranger. La question du ressenti personnel est évidemment centrale dans ce débat. Mais ce ressenti étant subjectif et évolutif, est-ce qu'il est juste de l'ériger en seule vérité et d'en faire le seul référentiel pour décider de tout et aboutir à des décisions extrêmes et irréversibles ? Dans une tribune récente, une cinquantaine de personnalités, intellectuelles, chercheurs, professionnels de santé et de l'enfance dénoncent une emprise idéologique sur le corps des enfants faite au nom de l'émancipation de l'enfant transgenre. Ils expriment leur inquiétude sur ce qui pourrait bien apparaître demain comme un des plus grands scandales sanitaires et éthiques que nous aurions regardé arriver sans mot dire. Alors, sur ce sujet ô combien délicat, considérant que grandir est souvent bien compliqué pour les enfants et les adolescents, la raison voudrait que la prudence l'emporte. Merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain.
Retrouvez toute l'actualité d'Alliance Vita sur le site alliancevita.org.